Bonne journée, éditorialiste à la presse. Bonjour.
Salut, Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Allô, allô.
Alors, Paul, donc, prenons-les un par un, là, pour ce qui est des principales annonces. Commençons, tiens, par le soutien des aînés à faible revenu, âgés de 70 ans et plus. Là, c'est 200 $ par aîné, 400 $ par couple d'aînés qui pourront, qui auront droit à ce petit répit.
Oui, si je comprends bien, c'est offert à tous ceux qui seront dans le besoin. La grande différence avec les crédits d'impôt, c'est qu'une mesure comme ça, elle est plus simple, elle est plus facile à recevoir. T'as pas besoin de te qualifier, de rentrer dans les bonnes petites cases. Et c'est une mesure progressiste qui me semble bien avisée parce qu'on le sait, avec le vieillissement de la population, avec la difficulté de certaines personnes de mettre de l'argent pour leur vieillesse, parce qu'on sait qu'on vit plus longtemps, il y a des réels problèmes de pauvreté, du monde qui n'arrache, particulièrement chez les aînés. Donc, tant mieux si on essaie d'agir là-dessus.
C'est un crédit d'impôt, par contre, mais j'ai l'impression que c'est un crédit d'impôt remboursable, donc tout le monde y aura droit.
Exact, c'est ça la distinction. Tu as des crédits, des fois, qui sont très complexes pour les proches aidants. Finalement, il y a une minorité des gens seulement qui se qualifient.
Tu as raison.
Je ne crois pas que ce sera le cas ici.
Très bien. Carl, dès que tu veux intervenir, tu fais signe, OK?
Oui, sans problème. On va laisser Paul expliquer ça un peu.
Nous donner, effectivement, la synthèse. Alors, donc, crédit d'impôt pour le soutien. Donc, j'ai quelqu'un qui m'écrit, qui me dit les personnes seules encore oubliées, là. En tout cas, les personnes seules qui ont 70 ans et plus ne sont pas oubliées. Mmh. Donc, c'est pas grand-chose, 200 $ par personne, mais comme dirait l'autre, c'est mieux que rien. Et ce que je comprends, c'est qu'elles vont en bénéficier. Tu vois, l'instauration du nouveau crédit pour le soutien des aînés permettra dès 2018. Donc, j'ai l'impression que s'il y a une forme de rétroactivité, là, en tout cas pour l'année fiscale présente. Là.
Oui, c'est possible de le faire pour ce genre de mesures-là, puisqu'on parle de retour d'argent puis d'année financière en cours, en effet.
Alors, est-ce que ça veut dire que les gens pourront recevoir un chèque dans les prochaines semaines? Là? On verra bien les modalités. Parlons de l'allocation famille, maintenant, qui va permettre donc à 420 familles d'obtenir une aide fiscale additionnelle. 500 $ par année pour les familles qui ont deux enfants. 1000 $ par année pour celles qui ont trois enfants. Donc, 500 $ par enfant.
Oui. Faut remettre ça un peu en contexte. Donc, il existe déjà une allocation familiale, mais il y a quelque chose d'un peu absurde. Si tu en es à ton deuxième enfant, tu reçois moins d'argent. Habituellement, plus tu as d'enfants, plus ça te coûte cher et on veut que les gens aient plus d'enfants, mais la mesure, elle fonctionne mal. L'allocation que tu reçois, pour ton deuxième enfant, tu en as moins. Pour ton troisième enfant, tu en as encore moins.
Actuellement.
C'est ce que, c'est ce que va corriger François Legault. Il va ramener ça. Le minimum que tu vas pouvoir avoir, ce sera 1000 $ et le maximum, 2430 $. L'allocation familiale par enfant, évidemment, ça varie selon ton revenu. Plus tu fais d'argent, moins tu vas recevoir d'argent en retour. Là, tout ça est progressiste.
Tout à l'heure, Louis nous disait, je m'excuse de t'interrompre, Louis nous disait, par contre, les familles qui déclarent un revenu familial excédant 108 000 $ n'auront pas droit à ce 500 $ par enfant à partir du deuxième enfant.
Parce que la logique, c'est pour redonner de l'oxygène aux familles, puis on estime qu'à partir d'un certain revenu, tu n'as plus besoin de l'aide de l'État.
Vas-y,
c'est 123 000 pour le troisième enfant. Donc, ça augmente avec le nombre d'enfants.
Ah, OK. Ça, c'est important.
Puis je sais que François Legault avait été attaqué par l'opposition quand il avait proposé ça, pas par le gouvernement quand il avait proposé ça. On disait, c'est un autre bébé bonus. On retourne au bébé bonus de Robert Bourassa dans les années 80. C'est pas tout à fait la même logique parce que là, on parle d'une allocation que tu reçois de la naissance de ton enfant jusqu'à sa majorité. Alors que dans les années 80, c'était seulement un chèque, un gros chèque à la naissance. Et l'objectif premier, c'est pas de stimuler la natalité. D'ailleurs, je pense que s'il y a un effet, il sera très, très faible. C'est plutôt de redonner de l'oxygène aux familles qui ont l'impression de pas être capables de joindre les deux bouts à chaque fin de mois.
Carl, qu'est-ce que t'en penses, toi, depuis ton perchoir à Ottawa? Là, c'est de la bonne politique, ça, quelques semaines avant Noël?
Ben, c'est sûr que c'est de la bonne politique. Écoute, on parle de presque un demi-million de familles qui pourront profiter de cette mesure-là. Donc, pour les gens qui regardent ça, ils disent, ben, enfin, on nous comprend, puis on cible les enfants. Donc, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment ciblé. Même chose au niveau de la fameuse taxe famille. Là, on y touche pas vraiment, mais au moins, on procède à un geste temporaire de l'indexation. Donc, à ce niveau-là, c'est encore un répit qui vise les familles. Donc, c'est clairement une tentative de cibler cet électorat qui a été favorable à la CAQ pour répondre à leurs besoins immédiatement pour remplir les promesses qu'on a faites dans la campagne.
Très bien. Chose certaine, ils ont de l'argent. Hein, Paul, je veux dire...
Plus qu'il pensait.
Pas mal, oui. Plus. 4,3 milliards, donc c'est encore plus que ce qu'on pensait.
Oui, ça, mais les surplus, parce qu'il faut...
Mais il faut être prudent, hein? Oui, faut être prudent. Parce que
tu sais, il y a un danger à avoir le nez trop collé sur le dernier rapport financier, parce qu'on sait, le ministère des Finances publie des rapports à chaque mois, puis au-delà des variations d'un mois à l'autre, ce qu'on doit garder, c'est le portrait d'ensemble et le surplus projeté pour la fin de l'année. Louis Lacroix nous l'a dit tantôt, c'est 1,7 milliard. Ça, c'est le surplus après avoir fait le versement au Fonds des générations qui nous sert à mettre de l'argent dans notre petit cochon pour rembourser la dette. Pour mettre ça en perspective, le budget du Québec est de quelques 110 milliards. Oui. Donc, on est dans d'1%. Quand on fait des projections à savoir si on va être en déficit ou en surplus budgétaire, ben le mot le dit, c'est une projection, c'est une hypothèse, c'est pas une science exacte. Des fois, ça peut varier un peu. Mm-hmm. Cette année, les revenus ont été supérieurs à ce qu'on pensait, mais c'est seulement d'1%. Donc, du total du budget, c'est quelque chose qui peut partir vite. Avant de se lancer dans les grosses dépenses, il faut se demander, est-ce que le surplus, c'est conjoncturel ou structurel? Bref, c'est juste parce qu'on a eu des bonnes nouvelles cette année qui ne reviendront pas l'année prochaine et le coussin qu'on a cette année va revenir la prochaine. Puis j'ajouterais aussi que ce qui compte, il faut toujours garder en tête aussi, on a-tu un coussin en fait? Est-ce qu'on a des marges de manœuvre qu'on se conserve à l'intérieur
du budget
actuel?
Il paraît qu'il ne touche pas à la réserve pour contingence, là. Non, alors ça, c'est ça. Une bonne nouvelle.
Le cadre financier de la CAQ est assez prudent.
Oui. Ouais, et là, justement, parlant de prudence, c'est ça, on est vraiment très prudent. Écoutez, la croissance économique pour l'année en cours, là, on est autour de 2,5%. Ce que le ministre des Finances prévoit, c'est qu'en 2019, on va demeurer positif, mais on baisse la croissance à en deçà de 2%. Donc, on est très, très prudent. Et donc, la marge de manœuvre, on dit, on a juste 1,9 milliard, on va se garder un coussin. Mais la réalité, c'est que si on a une croissance économique similaire à cette année, ce surplus-là sera supérieur, évidemment.
Oui, absolument. OK. On va... alors, c'est une réaction à chaud, là, les auditeurs. Là, vous comprendrez qu'on peut pas se permettre d'aller trop dans le détail. François Legault est en train d'annoncer le détail des choses. Tu souhaites rajouter...
Rapidement, pour rappeler que les garderies, la modulation des tarifs de garderie, c'était une des promesses, c'est une des mesures les plus décriées par le gouvernement Couillard. François Legault avait dit « on va annuler ça ». Et c'est ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui. Ils vont revenir à la situation qui prévalait avant.
Mais pas tout de suite, seulement au moment du budget de mars ou avril prochain. Et ce que j'ai compris dans les propos de Louis, c'est que ça va se faire graduellement. Hein? La contribution supplémentaire là,
ouais.
va être éliminée graduellement.
Mais le détail, ça peut être un peu compliqué. Si déjà on voit un changement à la rentrée de l'automne 2019, là, je trouve que déjà on est sur les en bon chemin.
Bernard, tu viens de parler de François Legault et c'est une chose que je trouve intéressante dans tout le marketing politique de cette annonce. Mm-hmm. C'est qu'habituellement, les mises à jour économiques, c'est le bébé du ministre des Finances.
Oui.
Et Éric Girard, bon, évidemment, il a expliqué ça aux journalistes ce matin, il a fait des déclarations, mais celui qui va vraiment prendre le ballon cet après-midi, c'est François Legault. Il va prendre le bâton du pèlerin par la suite.
Il répond aux questions des journalistes au moment où on se parle.
Exactement.
C'est lui, c'est pas le ministre des Finances qui parle, c'est le premier ministre. On n'a pas vu le ministre des Finances encore à TV.
Je pense qu'il existe. Là,
Il existe, mais visiblement, Legault veut se coller sur ces annonces-là parce que, en tout cas, de la manière dont il nous le présente dans son entourage, ils disent, écoutez, c'est les combats de Legault qui portent fruit aujourd'hui pour diminuer le fardeau fiscal des familles, notamment. Il veut mettre son nom et son visage sur ces annonces-là.
C'est clair. Puis
il veut se présenter un peu comme le premier ministre économique. Hein, c'est un peu ça son branding, comme on dit, son identité. Ouais. Alors, il veut... sa marque de commerce, devrais-je dire. Et donc, il veut se présenter comme ça. Franchement, Carl, dans la mesure où c'est des bonnes nouvelles, il n'y a rien à perdre, hein?
Ben, dans la mesure, effectivement, que c'est des bonnes nouvelles, mais c'est intéressant parce que, évidemment, on n'est pas rendu à donner de l'espace à son équipe, à ce que son ministre des Finances prenne son envol. C'est clairement une mise à jour économique de François Legault. C'est comme ça qu'on veut le vendre aux gens. Et bon, évidemment, s'il y avait des mauvaises nouvelles, peut-être qu'on aurait pris une approche différente. Mais...
OK. Nouvelle de dernière heure, on vient de voir apparaître à l'écran le ministre des Finances.
Éric Girard.
Donc, tu vois, j'étais bien informé quand j'ai dit qu'il existait.
Bravo, Paul.
Toujours me faire confiance.
Alors, Éric Girard, effectivement, se tient aux côtés de François Legault. Et donc, il vient de prendre le bout de l'ombre d'une fin de question. OK, on va s'arrêter parce qu'il faut vraiment que Carl nous parle au retour de cette grande mobilisation des Franco-Ontariens en fin de semaine. C'était vraiment immense, là. quand on prend le pourcentage de ceux qui se sont mobilisés en fin de semaine, si vous prenez le nombre de manifestants, puis vous comparez ça au pourcentage total des francophones en Ontario, c'est comme s'il y avait eu, je pense, le chiffre, c'était au-dessus de 150 000 Québécois dans les rues en fin de semaine. C'était vraiment énorme. Carl nous en parle au retour. Alors, Carl, parle-nous de ce mouvement, donc, des Franco-Ontariens. Ils étaient combien? Au-dessus de 10 000? C'est quoi? 14 000? J'ai vu le chiffre.
On parle au-delà de 14 000, près de 15 000, en fait, en Ontario. Et c'est quand même quelque chose, comme tu le disais, par considérant le pourcentage de la population et comment ils sont répartis à travers la province. Parce qu'évidemment, il y a quelques poches, là, particulièrement dans l'Est ontarien et dans le Nord, également à Windsor, mais il y avait des manifestations un peu partout. À Ottawa, en face du monument des droits humains, on était au-dessus de 5000 personnes à se rassembler là pour revendiquer, évidemment, la restauration des services qui ont été coupés par Doug Ford et pour le retour de ce projet d'université de l'Ontario français. C'était beau à voir cette mobilisation-là.
T'étais là, Carl, c'est ce que je comprends, là?
Mais je suis passé autour. Okay. Je suis pas resté. C'était la fin de semaine où le Père Noël arrivait. Fait que les enfants avaient des besoins prioritaires.
Il y a besoin de le père, il y a besoin du Père Noël. On comprend.
Exact. Mais ce qui était beau à voir, j'ai suivi ça sur Internet, c'était les manifestations qui avaient lieu ailleurs au pays. Évidemment, au Québec, on en a eu quelques-unes. L'Assemblée nationale, d'ailleurs, a fait flotter le drapeau franco-ontarien sur son enceinte. Alors ça, c'était un geste très important. Et du côté des gens qui ont fait les luttes de Montfort, on dit l'engagement, la mobilisation des franco-ontariens était supérieure à ce que c'était il y a 20 ans. Alors, c'était toute une réponse. Écoute, une chose que j'ai jamais vue, moi, ça fait 20 ans que j'habite dans la région de la capitale nationale, là. Le Ottawa Citizen a publié samedi matin un éditorial en appui aux franco-ontariens et il l'a fait en français.
Oui, je sais, j'ai vu ça. C'est quand même quelque chose, là. Puis Dieu sait que ça n'a pas toujours été un journal très, très pro droit des francophones, le Citizen, là. Hein, on s'entend? Non,
effectivement, il y a eu des moments où c'était pas très, très, disons, progressiste au niveau du bilinguisme, mais là, c'était quelque chose. Il disait, l'éditorial essentiellement disait, les franco-ontariens méritent mieux.
Mais
là, la réponse du gouvernement Ford à toutes ces manifestations, à toutes ces pressions politiques, parce qu'évidemment, le gouvernement fédéral était là. D'ailleurs, le caucus libéral de Justin Trudeau avait une annonce dans le cahier spécial du journal Le Droit où tous les députés de la région étaient évidemment mis de l'avant. La réponse du gouvernement Ford, c'est bien finalement, on a déjà répondu aux inquiétudes, on a fait quelques changements. Disons qu'eux autres, ils espèrent vraiment que la tempête va passer. Et il y a deux, trois choses que je peux te dire. Premièrement, Caroline Mulroney, elle a répondu, entre autres, à quelques journalistes. Et là, je prends Philippe Orfali du Journal de Montréal, qui, ça fait deux semaines qu'il demande une entrevue à Caroline Mulroney.
Nous autres aussi,
là,
en passant.
Ben, je suis pas surpris, puis elle n'en donne pas. Mais dans le cas de Philippe Orfali, qui voulait une réaction aux manifestations, il a reçu une réponse.
In English.
De la part de Caroline Mulroney. Ben oui, en anglais seulement, toi.
Ça arrête
la
pas
ministre des Affaires francophones qui répond à un journaliste francophone en anglais. C'est-tu beau?
C'est Google Translate ne fonctionnait pas, j'imagine, ce jour-là.
Écoute,
mais c'est assez incroyable.
C'est assez pathétique.
Et puis, deux petites choses que je veux ajouter au niveau de ce qui se passe à Queen's Park. Évidemment, Amanda Simard a quitté le caucus conservateur. Et là, le Parti conservateur veut monter la barre de statut de parti officiel, accélérer le processus pour faire passer ça de 8 à 12 parce que le Parti libéral est à 7. Et si Amanda Simard se joignait aux libéraux, ça leur donnerait le statut de parti officiel. Alors Doug Ford veut s'assurer que ça se fasse pas et monte ça rapidement de 8 à 12.
Est-ce que c'est adopté, là? Parce que quand tu changes les règles comme ça, tu es supposé de le faire d'une façon consensuelle, là. Tu peux pas juste imposer ta volonté par ta seule majorité, là. On parle des règles du Parlement, là.
C'est les règles du Parlement et il semble que Doug Ford va faire adopter ça à toute vapeur. C'est
sans l'appui d'aucun autre parti en chambre?
Ils vont agir de manière unilatérale en utilisant leur majorité.
Oh,
c'est l'objectif.
Ça, c'est pas correct, ça. Ça,
c'est non, pas c'est pas correct.
Ça, c'est absolument pas acceptable, ça, là.
Ça semble pas vouloir les arrêter. Et là, l'autre question qui va se poser, c'est quelle sera la suite des choses pour les franco-ontariens? Évidemment, c'est une mobilisation énorme. Mais là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que le mouvement va pouvoir continuer? Parce que le gouvernement Ford, lui, décide qu'il s'entête, on changera pas d'idée. Et là, on arrive au temps des fêtes, c'est plus difficile de garder les gens mobilisés. Ça sera pas facile, parce qu'on a atteint un beau sommet hier. Mais évidemment, le gouvernement Ford, lui, change pas d'idée pour le moment.
Quelle arrogance, hein?
Mais tu poses une excellente question, Carl, là. Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape pour le mouvement, là? C'est pas évident, là. On approche des fêtes. c'est quoi la prochaine étape? Tu sais, par exemple, Amanda, qui se rallie aux libéraux, moi, on me dit, ceux qui la connaissent me disent, c'est une conservatrice.
Oui.
Vraiment, là, dans le fond du fond, là, elle est pas du tout libérale. Ça correspond absolument pas à sa philosophie politique personnelle, à ses valeurs personnelles. Et donc, les gens m'en parlaient. La semaine passée, me disaient, non. Amanda, là, si elle quitte le caucus conservateur, ça sera pas pour aller chez les libéraux. Elle est pas du tout libérale. Mais, je sais pas. Être à sa place, tu fais quoi, là? Tu restes indépendante jusqu'à la fin de ton mandat?
Écoute, c'est pas évident. Là, évidemment, présentement, là, pour elle, c'est un épisode rempli d'émotions. Ah. Parce qu'on a quitté, écoute, elle avait le trémolo dans la voix la veille lorsqu'elle faisait son discours pour demander aux gens de changer d'idée, les gens de son parti de changer d'idée. Elle a quitté par la suite parce qu'évidemment, on la traitait pas comme il faut, on traitait pas les francophones de l'Ontario comme il faut. Mais là, évidemment, lors des manifestations, elle, c'est présentement, c'est l'héroïne, là.
C'est la Jeanne d'Arc des Franco-Ontariens, là.
Oui, exactement. C'est celle qui est la porte-étendard.
Ah oui.
Et donc, s'il y avait une élection aujourd'hui, elle rentrerait dans Glengarry plus Scott Russell avec 80%. Mais l'action d'une députée indépendante demeure limitée.
C'est ça.
Et comme tu le dis, même si les libéraux, le Parti libéral de l'Ontario a fait des approches, c'est pas évident qu'elle se rendrait jusque-là. Une théorie que j'ai entendue de certains organisateurs conservateurs que je connais dans l'Est ontarien.
Se présenter pour Justin Trudeau.
Se présenter pour Andrew Scheer.
Oh.
Hein? C'est une conservatrice dans l'âme. Alors, est-ce qu'Andrew Scheer a fait suffisamment pour défendre le fait français au Canada pour la convaincre de venir au fédéral? Pas impossible.
Surtout s'il a réussi à obtenir une certaine concession de M. Scheer pour montrer qu'il protégerait davantage les droits des minorités francophones.
Mais dans l'Est ontarien, là, c'est compliqué de se faire élire conservatrice.
Donc, il y a des comtés disons, les comtés sont pas tout à fait pareils, là, mais il y a des comtés qui sont plus conservateurs que celui qu'elle a présentement. Il y a des possibilités, par exemple, parce que les conservateurs dans la banlieue d'Ottawa sont toujours en mesure de faire des gains.
C'est vrai. Oh, tu vois, c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Moi, tu vois, j'ai pensé Justin Trudeau parce que je me suis dit sur la scène provinciale, elle se voit pas avec le Parti libéral, c'est ce qu'on me dit, mais peut-être que sur la scène fédérale, en voyant le rôle qu'a joué Justin Trudeau puis Mélanie Joly dans la défense des droits des Franco-Ontariens, peut-être qu'elle pourrait être une candidate, mais t'as raison, ça pourrait être aussi bien Scheer. Paul, vite.
Ben, il lui reste quelques mois pour se décider. Hein.
Ah oui, c'est mais ça. Mais faut pas oublier que les libéraux, Justin Trudeau, a imposé une convention pour chacun et chacune des candidats-candidates. Ils doivent passer par une convention. Je vous remercie, Carl Bélanger, Paul Journet.
Salut.
Restez avec nous, les auditeurs. On s'en va aux nouvelles. On revient tout de suite après deuxième heure.